Oh, aujourd'hui, les baleines rigolent. La belle baleine des îles Marquises, la baleine blanche, la baleine grise, le petit beluga des banquises, le cachalot, la grande abosse. Même la baleine bleue, la plus grosse, longue autant que 200 enfants, lourde autant que 30 éléphants, se fend la pêche et se gondole. Elles rigolent comme des baleines, en se tapant sur la bedaine. Et les poissons, ça les étonne de les voir toutes en faire des tonnes. Les poissons, sciés, se demandent « Pourquoi cette bande de gourmandes, pourquoi cette bande de gloutonnes se bidonne ?» C'est qu'elles ont entendu dire que leur copine, la petite sirène, veut faire un régime pour maigrir. Ça les fait pleurer de rire. Ce petit poème pour introduire cette nouvelle émission dans l'Iquanou est tiré du livre Sac à Poux, poème pour rire un peu beaucoup. C'est un livre publié chez Gallimard Jeunesse, écrit par Nicole Amran et illustré par Marion Pifaretti. Et je peux vous le garantir, vous allez bien rigoler avec ce livre. Bienvenue pour cette nouvelle émission dans l'Iquanou, c'est l'émission de mai, du mois de mai, le joli mois de mai. C'est la 52e émission. Je suis aujourd'hui entouré de Véronique, bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Mais aussi de Méline, bonjour Méline.
Bonjour Simon.
Voilà, nous avons concocté une très très belle petite émission de printemps.
Oui.
Il y aura du rire, il y aura de l'émotion, il y aura de la beauté comme d'habitude. Et puis il y a toujours Philippe, évidemment, qui va nous faire, qui est aux manettes, comme ça, le DJ Philippe, n'est-ce pas ? Si ça marche, on espère que ça marche, ça va marcher. voilà. Alors comme d'habitude, vous le savez, dans cette émission, on commence toujours avec un petit peu de musique. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi un album d'une jeune débutante, en fait, une jeune chanteuse débutante. Elle s'appelle Adèle. Alors, elle n'est pas du tout anglaise. Non, elle est plutôt carrément française, carrément mortelle même. C'est Mortel Adèle. C'est l'album Show Bizarre. Et on écoute tout de suite un morceau qui s'appelle À travers le temps.
De tout temps, de tout âge, on trouve dans l'histoire des petites filles de passage, cœur pavé de victoire. Elles font bouger le monde avec grâce et distance. Elles sont la terre qui gronde, la désobéissance. J'en ai connu tellement de vrais petits miracles qui, sans prince charmant, ont franchi les obstacles. Vous, vertueux symbole, vous, précieuse plante, vous, ces en herbes folles, vous, vous êtes si importante. Moi, j'errais dans le ciel quand j'ai reçu l'appel d'une énergie lunaire, celle de l'imaginaire, au beau milieu du vide, d'un néant insipide. Quand j'ai reçu l'appel d'une petite fille mortelle, il y a 3 millions d'années, j'ai rencontré Lucie, debout sur ses deux pieds, courant après la vie. Un jour j'ai croisé Jeanne, qui avec son épée, plus brave qu'un Batman, n'a jamais rien lâché. Vous, vertueux symbole, vous, précieuse plante, vous, ces en herbes folles, vous, vous êtes si importante. Moi, j'irai dans le ciel quand j'ai reçu l'appel d'une énergie lunaire, celle de l'imaginaire, au beau milieu du vide, d'un néant insipide. Quand j'ai reçu l'appel d'une petite fille mortelle, j'ai côtoyé Sarah, la voix d'or, la divine, la toute première rockstar mondiale féminine. J'ai appris de Marie, scientifique d'exception, qu'on n'est jamais trop petit pour de grandes inventions. Louise de tous les combats et qui fit le pari de changer les lois dans les rues de Paris. Rosa qui vint à bout de l'humaine bêtise, qui s'est tenue debout tout en restant assise.
Freedom of religion, freedom to vote,
freedom for everybody.
One teacher, one book, and one pen can change the world.
Frida, Greta, Simone résonnent comme un emblème à toutes ces personnes muses de ce poème. Vous, vertueux symbole, vous, précieuse plante, vous, ces enherbes folles, vous êtes si importantes. Moi, j'irai dans le ciel quand j'ai reçu l'appel d'une énergie lunaire, celle de l'imaginaire, au beau milieu du vide, d'un néant insipide, quand j'ai reçu l'appel d'une petite fille mortelle.
Et oui, mortelle Adèle, elle est présente. Ah, c'est un vrai show. Hein.
Ouais.
Non, non, c'est un livre CD qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu une première collaboration entre Mr. Tan, donc l'auteur de Ne mortelle Adèle, et Aldebert sur une chanson. Dans l'album d'Aldebert, il y avait fait une chanson autour de Mortelle Adèle et ils ont décidé de pousser le travail un petit peu plus loin en faisant carrément un disque, un album. Donc toutes les musiques sont écrites par Aldebert et les textes sont écrits par Mr. Tan, donc Antoine Doll. Et donc c'est lui qui a fait toutes les textes des chansons et chaque chanson est interprétée par un chanteur ou une chanteuse différente qui représente un des personnages de Mortelle Adèle. Donc là, par exemple, Aldebert prend en scène le personnage de Magnus. Magnus est le petit fantôme qui accompagne Adèle lors de toutes ses aventures. Et sur l'album, on a toutes les chansons avec à chaque fois des voix différentes qui sont faites par des acteurs ou des chanteurs différents. C'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple Dorothée Pousseau qui fait la voix d'Adèle. Alors c'est marrant parce qu'elle a commencé par faire un disque et puis maintenant elle fait celle qui fait la voix du dessin animé. Ouais. C'est une actrice, elle, qui est spécialisée justement dans les doublages notamment. Mmh. Elle a fait plein de doublages de personnes connues. On retrouve Aldebert, comme je vous l'ai dit, qui faisait Magnus. Mais on retrouve aussi Mr. Tan qui chante, on l'entendra tout à l'heure, sur certaines chansons. Et il y a Diane Lefayère aussi, donc l'illustratrice qui chante, qui fait... qu'est-ce qu'elle fait comme personnage d'Anne Lefayère, je ne sais plus. Est-ce qu'elle fait une des deux copines, je ne sais plus. Emmanuel Curtil, enfin Claire Guyot, il y a plein de chanteurs et acteurs qui représentent chacun des... C'est comme une comédie musicale, en fait. Et c'est vrai que l'album est fait comme ça, et puis la bande dessinée aussi raconte...
un objet complet, là.
Ouais, parce que la bande dessinée raconte la création de ce disque.
Ah oui.
Donc voilà, c'est très très chouette. Alors, il faut savoir que Mortelle Adèle, c'est le phénomène bande dessinée.
C'est incroyable.
C'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Donc une collaboration qui avait lieu avec Bayard pendant quelques années. Puis maintenant, Mr. Tan a pris son indépendance puisqu'il a créé Mr. Tan & Co. Donc il va éditer ses propres bandes dessinées. Là, il y a le premier qui est sorti, qui est une bande dessinée, mais aussi un petit journal à remplir. Donc voilà, c'est un ultra phénomène. C'est des disques maintenant, c'est une série animée, c'est plein de produits dérivés. Voilà, c'est un peu l'idole des jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et comme Aldebert est le chanteur aussi le plus écouté pour les enfants en France. Ouais, vraiment. Donc les deux ensemble, forcément, ça fait quelque chose de très très chouette. On va réécouter des petits morceaux tout au long de cette émission. Si vous le voulez bien, bien sûr,
mais
mesdames.
Mais bien sûr, nous le voulons.
Mais avant tout ça, on va parler quand même de littérature de jeunesse avec l'actualité de la littérature de la jeunesse. Ah, j'ai raté. L'actualité.
Non, mais j'ai récupéré.
Rature de la
jeunesse.
Ouais, vous l'avez fait.
Il faut qu'on s'entraîne encore.
Oh, on est vraiment nuls.
On se retrouve 7 ans.
Alors, oui, c'est ça. Alors, cette actualité, elle est un peu triste hein, quand même, parce que moi, je voulais revenir sur un événement qui s'est passé il y a quelques semaines. C'est le décès de Christine Baker. Alors, Christine Baker, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu de la littérature de jeunesse, c'est peut-être un nom qui ne vous dit rien. Mais, allez, on va juste écouter sa voix et peut-être qu'il y a des indices dedans, vous allez voir.
Barry Cunningham, son premier éditeur, m'a raconté comment, lors de leur premier déjeuner, il a dit à Joe, c'est très bien ce que tu as fait, mais garde un vrai métier parce que tu gagneras jamais ta vie avec les livres pour enfants. Bien sûr, je lui aurais dit la même chose. Du reste, c'est l'un des aspects remarquables de cette histoire extraordinaire, c'est qu'elle apporte une consécration au livre de jeunesse qui était attendu. Je pense que beaucoup d'adultes, beaucoup de critiques, beaucoup d'enseignants, beaucoup de professionnels du livre ne se rendent pas compte du gisement de qualité que représente la littérature de jeunesse.
Alors voilà, vous l'avez entendu un peu sous ce court extrait, peut-être deviner qui c'était. Christine Baker, c'est une femme qui est née en 1952, qui est partie s'exiler en Angleterre. Et puis là, elle a rencontré un libraire, Robin Baker, donc d'où son nom. Elle s'est définitivement installée en Angleterre. Elle a eu des enfants avec ce mari. Et puis, elle a rencontré en 1978 Pierre Marchand. Mmh. Pierre Marchand qui venait de lancer le département jeunesse de Gallimard Jeunesse, justement, de créer Gallimard Jeunesse en 1978. Et à cette époque, il lui propose, comme elle a un regard sur la production anglaise notamment, de collaborer avec elle.
Ah, ça vient d'elle.
Alors, en fait, Christine Baker, elle a travaillé dans une des premières librairies spécialisées jeunesse au monde, qui était à Londres.
Et qui était, à cette époque, elles étaient...
Rares,
mais avant-gardistes.
Ah, complètement avant-gardistes. Et donc, Pierre Marchand, qui la connaissait, en fait, va lui demander de travailler avec lui. Et c'est comme ça que va commencer la grande collaboration entre Gallimard Jeunesse, notamment, et tous les auteurs anglais. Parce que Christine Baker, tout simplement, c'est l'une des plus grandes éditrices françaises qui a œuvré, puisqu'elle a quand même fait connaître au public français Roald Dahl, tout simplement, mais aussi Quentin Blake, mais aussi Michael Morpurgo, Philippe Pullman, Liane Hearn et celle qu'elle appelle Jo dans l'interview, c'est J.K. Rowling.
Ah d'accord, carrément, okay. Qui ne réussirait pas sa vie avec des livres.
Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Rowling, elle a signé avec un éditeur anglais qui n'était pas du tout un des gros éditeurs en fait, parce que son manuscrit avait été refusé partout. Et Gallimard Jeunesse, c'est le deuxième éditeur à la signer, c'est-à-dire que c'est la première traduction avant les États-Unis. C'est les Français qui ont acheté les droits en fait de J.K. Rowling et c'est Christine Baker. Donc c'est voilà.
D'accord. Merci pour la petite histoire. Soulever le voile.
Voilà. Et après, Christine Baker, évidemment, va continuer son travail d'éditrice, celle qui éditera notamment Timothée de Fombelle aussi. Mmh. Donc voilà. Alors, elle a une grande carrière d'éditrice. Elle deviendra même directrice éditoriale de Gallimard Jeunesse. Et puis voilà. Donc, c'est une grande dame de l'ombre, en plus, parce qu'elle n'a jamais vraiment été mise en avant pour son travail, mais quelqu'un de très important. Je vous incite à découvrir son travail. On vous a présenté il n'y a pas très longtemps, pour les 50 ans de Gallimard Jeunesse, il y a un très beau livre qui est sorti, et il parlait évidemment du travail de Christine Baker. Donc voilà, on voulait lui rendre hommage dans cette émission dédiée à la littérature de jeunesse, évidemment. On parle de livres pour les tout-petits.
Mais oui.
Véro, je crois que vous avez deux coups de cœur.
Alors, j'ai deux coups de cœur pour les tout-petits. Petit pied d'Elisa Mazzoli et Mariana Badulci chez À demi-mot. Le personnage de cette histoire est un petit pied hyper doudu. On sent qu'il appartient à un bébé bien en forme.
On a envie de le croquer un petit peu.
Oui, complètement. Le petit pied d'un bébé qu'on devine curieux, avide de sensations et de découvertes. Petit pied parcourt le monde, son monde, en caressant le chat. Petit pied sent la fleur avec sa peau. Petit pied nage comme un poisson. Donc c'est un livre très sensuel, un livre charnel, où cette photo de petit pied avance dans les décors, mi-dessin, mi-photo. Je dis sensuel car on ressent les sensations de toucher agréable ou non de petits pieds, tellement les pleines pages sont réalistes. C'est bluffant et je trouve intéressant que l'enfant puisse s'identifier aussi à son petit pied. Voilà. Un petit cartonné, un petit album.
C'est très important le petit pied pour l'enfant parce que c'est un peu le premier objet qu'il va mettre à sa bouche.
Aussi,
souvent,
oui,
il l'attrape.
Oui.
Et...
C'est ça.
Voilà.
C'est super original.
J'aime bien le format de l'album aussi, qui est un petit format carré.
Voilà, c'est ça. Et des pleines pages, vraiment des pleines pages. J'ai un mélange vraiment de types d'illustrations, de dessins, avec des beaux contrastes aussi. C'est vraiment, vraiment chouette.
Un très beau travail.
Très beau travail.
Et puis vous avez un deuxième coup de cœur d'un couple d'auteurs qu'on connaît mieux.
Voilà, de Monsieur Ramadier et Monsieur Bourgault. Est-ce qu'il y a une madame dedans? Non, il n'y a pas de madame. Je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave, on va chercher, Monsieur Simon. Le souffle magique de Ramadier et Bourgault, à l'école des loisirs chez Loulou et compagnie. Donc, pareil, une belle originalité, quelque chose de nouveau, un cartonné où le tout petit lecteur est mis à contribution et doit donner de sa personne en soufflant pour faire avancer l'histoire. Il y a un petit ourson tout rouge qui lui demande de gonfler son ballon bleu afin qu'il s'envole par-dessus les mers. Il doit aussi souffler sur la voile blanche de son bateau pour arriver sur la terre. Mais plouf, l'ourson rouge tombe dans l'eau. Alors le tout petit lecteur doit encore souffler pour le sécher et ainsi de suite. C'est une chouette aventure, mise en scène de façon intéressante. Donc, les couleurs sont vives et profondes aussi. Elles donnent envie d'aider l'ourson. Il y a une énergie joyeuse, incroyable dans cette histoire. Et on a vraiment envie de trouver un bébé, comme ça, d'aller chercher un bébé, pour partager l'histoire avec lui, voir comment il va répondre à ce type d'incitation et d'interactivité. Est-ce qu'il va souffler ? Je pense à un livre d'Hervé Tulé aussi, cette interactivité, mais celle-là, elle est... Bon, un livre était magistral hein, sur le principe. Celle-là, c'est... Je dirais que c'est tout en douceur, c'est amené vraiment, c'est pas spectaculaire, mais on rentre dans l'histoire et c'est vraiment trop sympa.
Bah c'est au cœur de leur travail, parce que c'est quand même eux qui font le livre qui a peur, le livre amoureux, oui, le livre... Donc c'est un procédé où, qui interpelle le lecteur.
Tout à fait, mais là il est mis à contribution physiquement, quoi. Il y a vraiment... Faut souffler. Je pense que ça peut intéresser les psychomotriciennes à mon avis.
C'est dur de souffler pour un enfant plus ça.
Mais tout à fait, exactement, et le souffle, il ne vient pas naturellement comme ça.
Donc et ce sont bien deux garçons. Quand même.
Ce sont deux garçons.
C'est Cédric et Vincent, donc.
Cédric et Vincent, je le savais.
Voilà.
Je le savais.
Voilà.
Merci, monsieur douter. Simon. Hein.
Vous m'avez fait douter. Moi aussi, j'ai deux coups de cœur pour la petite enfance. Le premier, c'est un gros coup de cœur. C'est un très grand coup de cœur. C'est un magnifique coup de cœur. Il s'appelle « Tu vois le jour » de Laurent Moreau. C'est publié chez Helium. Et j'ai très, 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 très envie de vous parler de ce livre. De Laurent Moreau aussi, qui nous avait ravis avec tous ses albums. Vous vous souvenez peut-être de « À quoi penses-tu ?» ou bien « Après » ou « Sauvage » ou même « Jouer dehors », publié en 2019, qui avait eu une mention à la foire de New York Talking Pictures. Et puis en 2021, il fait « Mon petit oiseau », qui était son premier livre cartonné pour les tout-petits, en noir et blanc et en couleur. Et « Tu vois le jour », c'est un peu la somme de tout ça, de tout ce travail. Mais je crois qu'il en parle quand même nettement mieux que moi, donc on va l'écouter.
Bah, je suis Laurent Moreau, je suis auteur-illustrateur. J'ai fait la plupart de mes albums en tant qu'auteur-illustrateur aux éditions Helium. Et voilà, en ce moment, je travaille sur un nouveau projet de livre qui s'appelle « Tu vois le jour ». Ça va être un projet de livre pour les tout-petits. C'est même, un livre pour les bébés, quoi, les nouveau-nés. Et quand ma deuxième fille est née, j'ai eu envie d'essayer à ma façon de lui proposer des images en noir et blanc. En fait, je l'ai pensé comme avec ce format-là, parce que j'ai tout de suite imaginé qu'on pourrait faire tenir ce livre debout, qui aura la forme d'un Leporello, c'est-à-dire un livre en accordéon, qu'on pourrait placer à côté d'un enfant allongé sur une couverture. Donc l'enfant serait un peu immergé en fait, dans cet univers visuel, puisque j'ai imaginé qu'en fait, ça pourrait être un livre assez grand pour pouvoir faire éventuellement le tour de l'enfant, déplier en fait, tout autour de lui, et qu'il puisse aller... par sa curiosité, aller chercher un dessin là, puis après se tourner, voir qu'il y en a un autre là. Au départ, c'est plus un attrait visuel, d'aller intéresser le bébé, de lui donner envie de bouger, en fait, de tourner la tête déjà. Et puis après, en grandissant, il va y avoir autre chose, il va y avoir l'envie d'identifier des éléments. On va retrouver un chat, on va retrouver une fleur, un oiseau. Et puis j'ai aussi choisi de représenter des choses qui sont plus abstraites, qui a priori sont pas, on ne puisse pas forcément dessiner, comme le vent, la voix. Voilà, je trouvais ça déjà intéressant visuellement de confronter des choses palpables, des choses réalistes, et puis des éléments plutôt abstraits. Parce qu'en fait, les bébés, les nouveau-nés, en fait, ils voient très flou. Tout ce qui est au-delà de 20 cm, c'est vraiment très très flou, quoi. Donc, ils voient, on va dire, à 20 cm, et aussi, ils voient quasiment qu'en noir et blanc. Puis progressivement, en fait, quand ils vont grandir, l'œil va s'affiner, ils vont commencer à avoir un peu des touches de couleur. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé, tu vois, le jour comme un livre noir et blanc. Et puis, je rajoute sur les illustrations noir et blanc quelques petites touches de couleur pour accompagner justement l'enfant, que cette lecture de ce Leporello a pu se poursuivre, en fait, quand même, On peut imaginer qu'il puisse se poursuivre même quand l'enfant grandit un petit peu, quoi.
Et franchement, c'est une superbe réussite, ce livre est magnifique. Alors c'est marrant parce que moi, on en parlait un peu pendant que Laurent parlait. Non, on l'écoutait, mais on parlait un petit peu entre nous. Et on disait que ça nous... Il y avait, je trouve, une sensibilité qu'on pouvait rapprocher de celle de Lucie Félix. Mmh. C'est-à-dire que dans le travail autour de la petite enfance... Et Méline, tu me disais qu'on pouvait entourer l'enfant aussi avec le livre, ouais. Comme on le fait avec l'ouvrage Coucou de Lucie Félix. Et effectivement, je trouve qu'il y a ce côté-là. Ouais. Puis le jeu sur les couleurs, le jeu sur le
noir et blanc. Ça marche super bien, quoi. Mmh. Ouais.
Non, c'est vraiment un super beau livre. Et moi, je trouve que le travail de Laurent, que je suis et que j'adore depuis très longtemps, je trouve que là, avec ce côté épuré, il gagne une force. Mmh. Enfin, je trouve qu'il a une force graphique qui est absolument géniale.
Même abstrait, au niveau des notions.
Abstrait, ouais, tout à fait. Mais en même temps, qu'il garde quand même une. Comme peut faire Tana Oban avec son imagier qui existe depuis 50 ans. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Enfin, voilà, c'est un livre qu'on adore. Je pense que ça va être un livre que je vais beaucoup conseiller pour les cadeaux de naissance, pour voilà, tout ça, hein, pour avoir des choses un petit peu originales. Et puis le deuxième livre que dont je voulais vous parler en fait pour les tout petits, c'est un livre qui s'appelle Elle est où maman. C'est un livre d'Adeline Gray Cernéa, publié à la Martinière Jeunesse. Et c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, qui est tiré en fait de l'expérience personnelle de l'autrice, hein, qui a été maman il y a pas très très longtemps. Donc Adeline Gray Cernéa, c'est une autrice plasticienne qui est journaliste et qui écrit plutôt des textes pour les adultes. Et elle a écrit « Elle est où maman ?» quand elle est devenue mère, et que s'est aperçue que dès qu'elle quittait le champ de vision de son fils, il se mettait à pleurer. Et donc, ce livre, elle l'a écrit pour lui faire comprendre que quand maman n'était pas là, c'est qu'elle faisait sans doute quelque chose ailleurs, mais que ça allait bien, quoi. Et le livre se construit comme ça, donc c'est un livre cartonné, où à chaque fois, il y a à gauche... Elle est où maman? Et on voit effectivement un enfant qui est dans les bras d'un adulte. Cet adulte d'ailleurs qui change, hein, qui peut être le père, une amie, la tante, la grand-mère, enfin, on peut y mettre qui on veut. Mais toujours avec cette question, elle est où maman? Elle est où maman? Voilà. Et puis à droite, la réponse. Et on va s'apercevoir que maman...
elle a une vie à côté.
Elle a une vie, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que cette vie qu'elle a à côté... Il y a un petit côté aussi, on casse avec la vision
l'image
de la maman, voilà, qui est vraiment très très chouette. Donc ça peut être, maman est sous la douche, elle prend un peu de temps pour elle. Elle sortira quand elle aura fini. Elle est où maman? Maman est au travail, elle revient ce soir. Elle est où maman? Maman lit un livre, elle adore ça. Elle est où maman? Maman est à la piscine, elle fait un peu de sport, elle revient vite. Elle est où maman? Maman est allée faire des courses, elle rentrera après. Mais elle est où, maman? Maman est au cinéma, elle revient dès que le film est fini. Elle est où, maman? Maman est sortie avec ses copines et ses copains. Elle va rentrer tard, ne l'attendons pas. Mais elle est où, maman? Maman revient, regarde plutôt qui est là. Mais elle est où, maman? Maman fait dodo, tu la verras demain matin. Bonne nuit, maman. La chute est plutôt chouette, puisque évidemment, on va faire comprendre à l'enfant que maman revient toujours, tous les jours. Et que voilà, ça se finit bien. C'est un chouette livre parce que je trouve qu'il voilà, il prend avec beaucoup d'humour et de douceur une thématique. Voilà, on la retrouvait dans Bébé Chouette il y a très très longtemps. Hein.
Oui, mais là c'est traité de façon très originale.
Voilà, et puis de manière beaucoup plus
concrète.
Voilà,
quotidienne, réelle.
Même dans le dessin, voilà, ce sont des personnages humains et tout. Il n'y a pas d'animaux et c'est très très bien. Voilà. Donc c'est, je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant ce petit livre. On poursuit avec les un petit peu plus grands et c'est Méline qui va nous parler de 4 coups de cœur que tu as eus.
Tout à fait, tout à fait. Et je commence par le premier, qui est vraiment un album tout doux, qui s'appelle « C'est beaucoup de soucis d'élever un doudou » de Gwendoline Raison et Ilaim Abdeljelil. Voilà, c'est un dessin très très rond. Moi, ça m'a fait fondre le cœur parce que je l'avoue, à 20 ans, j'ai encore un doudou avec moi. Donc... ça m'a fait très plaisir de lire ça.
Seule,
Et on suit la petite Louison. Louison qui est très proche de son doudou qui s'appelle Roméo. Et voilà, elle l'emmène partout, sauf que ses parents en ont vraiment marre de voir Roméo partout. Donc ils lui disent « Maintenant Louison, ça suffit, on ne veut plus le voir, tu prends ton indépendance ». C'est un peu rude, hein. Mais ils ne veulent plus voir le doudou, donc Louison, elle feinte un peu, elle l'emmène quand même à l'école, elle le cache, jusqu'au jour où c'est Roméo qui va demander son indépendance. Et là, ça se complique un peu. Et c'est vraiment très chouette. Voilà, c'est
ils sont pas censés faire ça, les doudous, normalement.
Et ben là, il le fait.
On pense pas assez comme ça, non, à l'indépendance des doudous.
Mais oui, c'est vrai, c'est
le
vrai
parti indépendant des doudous.
Et une ligue d'indépendance des doudous. Ouais.
Donc c'est très chouette, ça fait une petite histoire d'amitié. Puis les illustrations d'Ilaim sont très très douces et voilà, ça fait un petit cocon d'amour.
Les couleurs sont magnifiques.
Hein. Ouais, c'est très très beau.
Elles avaient déjà fait, c'est leur troisième album ensemble, à toutes les deux. Elles avaient fait Ma mère est une forêt chez Pastel également il y a un an ou deux. Et puis il y a plus longtemps, Nom d'une pomme chez Alice, il y a très longtemps. Puis moi, je trouve que ça confirme les talents d'autrice de Gwendoline Resson. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire les histoires qui est toujours très très chouette. Que ce soit en bande dessinée, en petit roman ou en album, c'est toujours très très chouette.
Voilà, ça confirme. Et après, j'en ai un autre, alors gros coup de cœur aussi, c'est Marée haute, marée basse de Max Ducos. Donc là, on va vraiment à la mer, mais pas qu'en album, on entend les vagues et on a les pieds dans le sable. Et en fait, Max Ducos illustre le même plan de plage sur tout l'album, de l'aube en fait avec les premiers coureurs qui font leur jogging, puis l'après-midi avec les familles qui arrivent, les enfants qui jouent, les premières passions amoureuses aussi, et jusqu'au soir. Donc c'est vraiment de l'œuvre d'art, quoi. Voilà, la dernière page avec le coucher de soleil, c'est un vrai plaisir.
Et la première, la mer à travers les pins parasols.
Oui, puis il y a un vrai travail d'éditeur de Sarbacane qui est hyper beau.
Parce que la couverture est découpée. On est,
c'est extraordinaire.
Faut dire, hein, on est sur le bassin d'Arcachon ou par là-bas. Enfin, en tout cas, on est sur la côte atlantique, ça c'est sûr. Parce que je sais que Max Ducos, il habite par là-bas. Donc,
J'aurais dit en Bretagne. Non,
c'est pas la Bretagne. Il y a les pins, regardez, il y a les pins parasols.
Il y a des pins en Bretagne Nord, ouais. Monsieur Simon.
Bon, d'accord. Mais je pense qu'on est quand même plus sur le bassin. Et effectivement, il y a cette couverture qui est découpée comme si on voyait la mer à travers les pins. Et c'est vrai que c'est beau. Hein, on a envie d'y être. Hein. Ah, c'est le printemps, mais on a envie d'être en été.
Et la profondeur de la mer est représentée de façon magistrale.
De toute façon, Max Ducos, on sait son talent pour représenter les structures architecturales aussi, et puis le décor. Et puis voilà, donc c'est très très beau.
Ouais. Bah, dans le dernier numéro de Citrouille là, que j'ai là, il livre des petits secrets d'atelier et on le voit peindre sur des grandes toiles. Et c'est vrai que chacune de ces illustrations, c'est des vraies œuvres d'art, quoi.
C'est des vraies toiles, comme vous dites.
C'est trop beau. Voilà.
Le troisième. Ah, attendez. Je crois que j'ai une musique qui me vient. C'est peut-être un indice sur le troisième.
C'est Iggy Pop.
Bah oui, c'est Iggy Pop. C'est ça, vous allez nous parler d'Iggy Pop.
Tout à fait. Alors, pas d'Iggy Pop, mais d'Iggy. Ah. C'est un peu différent, mais c'est vraiment le chouchou de la sélection.
Iggy, on l'appelle Iggy.
C'est pas lui non plus.
C'est pas celui.
Décidément.
Il mélange tout, là. Il est trop tôt.
Et donc, Iggy, c'est un chien spaghetti. Enfin, c'est un peu moi qui prends la liberté, mais... C'est un chien voilà, qui a plein de poils très longs et très soyeux. Et on l'observe dans son quotidien par les yeux de son compagnon Duc, qui est un chat. Et donc voilà, on l'observe se mélanger dans ses plats de spaghettis, se mélanger avec les saules pleureurs, avec la pluie. Et c'est absolument merveilleux, c'est plein de mouvements, c'est tout doux. Et moi, je trouve ça aussi très fort qu'on s'attache à ce petit personnage d'Iggy sans qu'il nous parle en fait, parce qu'on l'observe vraiment de l'extérieur qu'avec les yeux de Duc, et je trouve ça trop trop fort qu'on soit autant attaché à ce petit personnage de crayons de couleur et de plein de douceur et de spaghettis.
C'est un lévrier.
C'est un lévrier afghan, je dirais.
Quand même,
ouais, on est sur un lévrier afghan.
Je pense.
Enfin, vu le long nez et les longs poils.
Ça doit être ça.
Et là, c'est le chat.
Non, le chat, c'est lui.
Ah, le chat, c'est lui. Oh, bah, ah oui, d'accord.
Il va y avoir un personnage à la fin qui va...
Ne spoilons pas.
Ah bah non, je ne spoil
pas.
Oh
là là, j'ai failli...
Moi, ce que je trouve super dans cet album-là, c'est le travail de Jeannie Coat, qu'on a l'habitude de voir avec des images plutôt faites sur l'informatique, très graphique.
Graphique, ouais.
Voilà. Et là, en fait, on la retrouve au crayon et c'est un plaisir.
Ça part dans tous les sens.
Trop beau, ouais.
On sent qu'elle s'est fait plaisir dans cette... dans ce travail autour d'Iggy et autour de ce livrier. Et c'est très graphique, on retrouve son côté graphique parce que avec ses grands cheveux, non pas ses cheveux, ses poils oui. qui pendent partout.
Oui, parce que l'espèce de petit personnage très, qu'elle déguise à tout va, la Janiquette.
Ouais, puis
je sais plus comment il s'appelle. C'est
hyper drôle de le voir. Quand il va vite avec les traits qui deviennent horizontaux, et puis après ça redevient vertical avec la pluie. Enfin, il y a quand même un jeu graphique très très fort.
Là, il est magnifique.
Mais tout au dessin,
ouais,
c'est vraiment génial.
C'est très très beau.
Et puis le texte d'Alex
rien
Cousseau.
Rien à voir avec Iggy Pop.
Mais non,
rien.
Je ne pense pas. Hein.
Rien.
À part peut-être la stature de
non,
serpent.
Rien.
Non, rien.
Non,
il n'y a pas de poils comme ça, Iggy Pop.
Non, je crois
non,
pas.
Non, c'est
hein.
juste pour le plaisir d'entendre The Passenger, c'est tout. Voilà. En tout cas, c'est un super bel album, je suis bien d'accord. On n'a pas dit l'éditeur.
C'est chez les Fourmis Rouges.
Ah bah, tiens, donc,
le revoilà, la fourmilière
tiens, donc,
arrive.
Ça c'est étonnant quand même. De toute façon, il n'y a pas une bonne émission sans un livre des
Fourmis
Rouges. Donc,
ça
voilà,
ne marche pas.
Il fallait le dire.
Il en fallait un.
Et vous avez un quatrième
et
coup de cœur pour
quatrième,
ces albums.
Et j'en ai un quatrième chez Pastel aussi. C'est le dernier John Classen, Les Trois Boucs Bourrus. Et c'est trop drôle. On retrouve bah ouais. l'humour de John Classen qui avait écrit Où est mon chapeau.
Où est mon chapeau.
Ça, c'était très très
mon
bien.
Chapeau,
là, il est accompagné d'un auteur ou d'une autrice.
Avec Mac Barnett, ouais, tout à fait. Et là, on est sous les ponts avec un ogre qui est affamé. Et sur ce pont, en fait, normalement, il dévore tout le monde qui veut traverser pour aller vers la verte clairière en face, où il y a plein d'herbes fraîches, etc. Et il y a un petit bouc qui se pointe, donc l'ogre s'apprête à le manger, et le bouc lui dit « Ah non, 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 stop, j'ai un frère derrière moi qui est beaucoup plus gros, tu seras bien nourri avec lui, attends, laisse-moi passer et tu verras. » Donc l'ogre attend, il se croit plus malin que tout le monde, et le deuxième bouc arrive, et lui aussi lui dit « Non, 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 attends, j'ai un autre frère vraiment très gros, tu vas te régaler avec lui, donc laisse-moi passer et tu verras. » Donc l'ogre attend, sauf que le troisième bouc, c'est un bouc immense, mais vraiment immense. Donc l'ogre là, il se fait tout petit, et il va finir au fond du lac. Hein, voilà. Donc on a toujours...
Avec des chaussures en ciment.
Voilà.
Je t'avais prévenu, petit.
C'est le conte des trois boucs, quoi.
Bah,
c'est les trois boucs bourrus.
Voilà. Hein.
Ah oui, trois boucs bourrus, ça
les
s'appelle.
Les trois boucs bourrus, ah ouais. Et c'est excellent.
C'est ouais. pas les trois boucs bourrés.
Non.
Bourru.
Ouais, ça pourrait être une... Parce que comme il fait des versions après et tout, il pourrait...
Bourru,
d'accord.
En tout cas, c'est toujours super.
Bah oui, oui, oui.
Le dessin de John Classen, c'est toujours génial de le retrouver, quoi.
Mais il utilise plusieurs matières, en fait, parce que cette atmosphère qu'il crée, moi, je trouve
incroyable.
Ça fou, quoi. Mm. C'est que ces petites taches et tout, c'est très, très beau, ouais.
C'est en même temps, à chaque fois, quoi, différent, et puis on reconnaît tout de suite, quand même, ces personnages, quoi.
Ouais.
Bah, merci beaucoup, Mélie, pour ces coups de cœur.
Avec plaisir.
Et bah, je crois qu'il est l'heure déjà du vrac de Véro, ou le Véro en vrac. Et bah oui, Véro,
et
allez.
Bah, on va essayer.
Puis il faut aller vite parce que déjà, on est déjà en retard.
D'habitude, alors, voilà. Quoi, comme d'habitude. Allez, Jour blanc de Adèle Tariel et Jérôme Perra chez Père Fouettard. Et voilà, c'est un album qui m'a émue aux larmes, quasiment. Il y a énormément d'émotions. C'est Aleka, qui est une Inuite, qui trouve une oursonne en piteux état. Et elle va la recueillir. Sa mère a essayé de la protéger contre un mâle ours qui voulait la tuer. Et cette oursonne est blessée à l'œil. Et donc Aleka va lui creuser une petite tanière de neige. Et elle va la nourrir, elle va la soigner jusqu'à ce que sa mère la retrouve, vienne la chercher. Et on s'aperçoit aussi qu'Aleka, elle attend un bébé. Et c'est tout l'approche de l'oursonne, pas l'apprivoiser parce que c'est pas le but, mais de la soigner parce qu'elle est un petit peu blessée. Et puis cette attente entre cette mère humaine, cette mère oursonne, ils se regardent de loin. Enfin voilà, c'est très très fort. Il y a des illustrations à base de papier découpé, collé, qui donne des volumes, qui donne des perspectives vraiment très très chouettes. Et c'est bouleversant. Cette oursonne et cette relation avec cette future mère est bouleversante. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, La Panthère de minuit de Poonam Mistry chez Kiman. Donc c'est un album juste merveilleux. Alors le sujet, c'est d'une panthère qui ne sait pas trop à quoi elle sert dans la vie et qui c'est une quête initiatique. Tic. Et à la fin va trouver sa place. Voilà, je passe un peu là-dessus. C'est surtout les illustrations de ce livre, les illustrations de Pooman Mistry, qui est d'origine indienne et qui a été fortement inspirée des représentations des bestiaires de son pays. Elle propose des illustrations d'une richesse mais foisonnante. Les images sont des aplats sans aucune perspective ou profondeur. C'est un fourmillement de détails, richesse de couleurs, des tons subtilement choisis, une narration visuelle. C'est un album, c'est comme un bijou. Voilà. Je tourne Roger sans coquille. Je ne vais pas avoir le temps de Roger parce que le texte est assez long. Mais voilà, chaque année, on élit le roi des escargots. Et chacun a sa chance. Mais il faut. Un bon grand chef escargot doit savoir bien baver. Il doit être très, très lent. Pas comme moi, quoi. Et avoir de belles antennes. Hein. Mais Roger, il n'en a rien à secouer. Lui, ce qu'il veut, c'est casser sa coquille, prendre le large et mettre en l'air toutes ses règles. C'est drôle, très drôle, avec des gros, gros clins d'œil au monde 68-art. Et c'est très, très sympa.
C'est Roger le hippie, quoi.
C'est Roger le hippie. Il a une coquille. Il a un bonnet, là, sur
Puis un petit coquille. Clin d'œil, quand même, pour les éditions Pantera. Qui
oh, pardon, j'ai pas dit Pantera.
Une nouvelle maison
Je
d'édition.
Je connais pas, ouais.
Voilà, qui a été créée en 2022. Ce sont deux femmes, Marianne Selly et Céline Lefebvre, qui ont créé cette maison d'édition. Il y a... pour l'instant 6-7 titres je crois qui sont sortis. Ça fait partie des petites maisons d'édition engagées qui se créent et qu'il faut soutenir. Donc ouais, allez voir. Et puis c'est Charles Duterte au
voilà,
dessin.
Voilà, j'ai Charles Duterte au dessin et Chris Adam Fazel au texte. Entrez donc, dit Wombat. Souvent on met le Wombat
en Australie.
Scène et en scène.
Dès qu'on veut faire parler d'Australie, par exemple.
Voilà. Et mais souvent, il est assez. Enfin, c'est un bon personnage, le Wombat. Il fait bien marrer. Et c'est écrit par Carmen Agra Didi et illustré par Brian Nias. On est chez Le Genévrier, qui souvent va éditer des livres anglo-saxons et de grande qualité. Et on est en Australie. Les feux de brousse sont tout au-dessus du terrier du Wombat, qui se dit il va laisser passer le feu. Il va s'installer tranquillou chez lui, peinard et tout. Sauf que tout le monde va venir le déranger. Un wallaby, un kookaburra, un ornithorynx, un koala et un phalanger volant. C'est le pire, le phalanger volant. Et finalement, ils restent tous chez lui. Ils s'installent et ils squattent, quoi. Ils squattent et lui, il ne retrouve pas tellement sa tranquillité. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est vrai, ils sont irrésistibles. Évidemment, c'est complètement anthropomorphique. Hein, mais c'est vraiment très, très drôle. J'ai encore juste 2 secondes pour... Ah ben non, j'en ai 2 encore. Ouais, bah j'en ai 2. Bah, voilà. La vie secrète des émotions. Voilà, la vie secrète des émotions. C'est une petite histoire pour chaque émotion. Ça aussi, c'est un grand choc. Hein. Les textes sont sublimes.
C'est le deuxième livre qu'ils font ensemble.
Bah oui, mais je rate toujours les premiers. Vous enfin, savez bien, ça, monsieur Simon. Que... Bah tant pis. Voilà.
C'est l'un des grands succès en fait, des éditions de la partie en fait, de leur début de carrière.
Pareil, la partie. Hein,
on en parle beaucoup.
Donc c'est Tina Osiewicz et Alexandra Zajac, chez La Partie, qui ont écrit « La vie secrète des émotions ». Le principe, c'est une petite histoire pour chaque émotion anthropomorphe aussi. Elles deviennent un personnage qui ressemble étrangement à des humains, avec un texte d'une très grande poésie, d'une très grande beauté. Un texte qui vient chatouiller nos secrets, nos rêves, nos habitudes et parfois nous bouleverse jusqu'aux larmes. On lit ces textes comme on savoure un dessert, d'un grand pâtissier avec gourmandise et bonheur absolu. Je vous assure, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Les illustrations sont expressives et envoûtantes, et malgré le parti pris du gris pour les personnages, ils sont très vivants, animés de toutes ces émotions. Nous allons rencontrer la patience avec les confitures, le courage et sa grande sœur. Je vous laisse 3 petites secondes pour essayer de trouver qui est la grande sœur du courage, la nostalgie et sa petite boîte en carton, la crainte et la curiosité, l'entêtement et sa super colle, et l'insignifiance et ses trésors. Qui est la grande sœur du courage?
Ah, pardon, je pensais noyer le poisson, je ne sais pas.
La je confiance. Pas. Oh. Et confiance. C'est beau.
Moi, je crois que c'était l'insouciance.
Et confiance. J'ai mon petit dernier. Je t'ai vu d'Éric Pintus et Rémi Saillard chez Didier. Un conte détourné plusieurs fois. Détourné plusieurs fois. Hein. Car sur une base de PCR, savez-vous ce qu'est le PCR? le petit chaperon COVID. Rouge.
Ah.
Voilà. Nous
c'est
allons
le
voir.
De test qu'on mettait dans le nez, non, c'est pas ça.
C'est pour ça que je l'ai fait.
Oh la bonne blague. Voilà.
Nous allons voir défiler d'autres.
Ça c'est des abréviations de bibliothécaire quand même.
Mais non.
Alors le PCR, non, tu vois, alors BN.
Mais non, c'est
non, parce... BN, c'est Blanche-Neige, tu vois, et PCR, petit chaperon rouge, bon bah ils sont dans un château.
Bon, à compte détourné plusieurs fois sur une base de PCR, nous allons voir défiler d'autres personnages de conte. En fait, c'est le PCR qui se déguise. Personnage qui traque le loup derrière son buisson. Le loup qui, je crois bien, voudrait être peinard. Mais le PCR est redoutable, nous le savons tous. Les textes sont à la typographie aidante, hein, comme savent le faire les éditions Didier, sont savoureux, agréables à mettre en bouche et nous chatouillent le palais. Je ne parle que de bouffe tout le temps, mais c'est comme ça, c'est la vie.
On a faim, on commence à avoir faim.
Avec des petites chantonnettes récurrentes et de petites merveilles de lecture à voix haute. Alors j'allais dire telles que, mais M. Simon ne va jamais vouloir que je les lise. Donc je dis « Le rouge rouille », hein, « Le rouge rouille » de Rémi Saillard, l'illustrateur, est décliné sur tous les tons, car c'est l'automne et c'est une forêt d'érable. Alors je vous laisse deviner comment ça explose de partout. Et la fin est un vrai bonheur de situation comique. Voilà.
Merci beaucoup, Véro. C'était un très beau vrac.
Ça donne envie.
Ça donne envie. On rappelle juste les auteurs et le titre du
Alors,
dernier. Comme
je t'ai vu, Éric Pintus, Rémi Saillard, on est chez Didier.
Merci beaucoup, Véro. Eh bien, je crois que l'heure passe, et c'est déjà l'heure du coup de cœur.
Oh yeah.
S'appelle Le Jardin de Baba, écrit par Jordan Scott et illustré par Sidney Smith. Vous vous souvenez, c'est ceux qui avaient fait Je parle comme une rivière chez Didier Jeunesse. Le jour de Baba. Baba, ma grand-mère, vit dans un cabanon, tout près de l'autoroute, derrière un terril de soufre. Un terril qui ressemble à une pyramide égyptienne, jaune d'or, comme le soleil en plein midi. Mon père me conduit chez elle tous les matins. Au début du trajet, il fait encore nuit, mais je vois le soleil se lever au-dessus de la mer. On dirait que les montagnes sont des ventres de baleines. Quand mon père me dépose, Baba ne vient pas à ma rencontre, mais je sais où la trouver. Je vais directement dans la cuisine. La voilà. Environnée de buées, elle fait cuire des pommes de terre. Elle danse contre l'évier, le frigo et la gazinière. D'une main, Baba épluche une betterave, de l'autre, elle ouvre un tiroir, pendant qu'avec sa jambe, elle ferme le frigidaire. Et comme toujours quand elle cuisine, je l'entends qui bourdonne et fredonne. La maison est remplie des récoltes de son jardin. Il y a une tresse d'ail pendue au plafond, des pots de cornichons dans la salle de bain, des betteraves dans le placard à chaussures, des carottes sur le fauteuil, des tomates sur le balcon et des pommes au pied de son lit. Je m'assois et j'attends mon petit déjeuner. Avec Baba, on ne se parle pas beaucoup. Un signe de tête, un geste, ça nous suffit. Une caresse sur la joue et je ris. Tous les matins, Baba me prépare la même chose. Du gruau avec son pesant de beurre et avec du chou, des cornichons et des betteraves du jardin. Tout ça dans un bol si grand que je pourrais nager dedans. Puis Baba me regarde manger. Quelquefois, j'en renverse un peu. Baba attrape le morceau tombé sur la table. Elle lui fait un baiser, puis elle le remet dans mon bol et me caresse gentiment la joue. Ma mère dit que Baba n'a pas mangé à sa faim quand elle était petite pendant très très longtemps. Je mange tout ce qu'il y a dans mon énorme bol et Baba m'emmène à l'école. Quand il pleut, Baba marche lentement tout en fredonnant des chansons que je ne comprends pas. Baba marche lentement parce qu'elle guette les vers de terre. Elle les voit qui se tortillent dans le caniveau, dans les gouttières, dans les flaques d'eau. Alors Baba les ramasse pour les mettre dans le petit bocal rempli de terre qu'elle garde dans sa poche. Tous les jours, Baba m'attend à la sortie de l'école. On rentre par le chemin du bord de mer, on contourne le terril et on arrive dans le jardin. Il y a tant de choses à voir, à sentir, tant de choses à manger, trop même. Baba se met à genoux à côté du pommier, des tomates, des carottes et des concombres. Elle chantonne un peu plus fort. Puis elle renverse quelques verres sur le sol et les recouvre de terre. Quand je lui demande pourquoi elle fait ça, avec son doigt mouillé par la pluie, elle caresse une à une les lignes de la paume de ma main. Alors je me mets à genoux, à côté du pommier, des tomates, des carottes et des concombres, et tous les deux nous renversons les verres sur le sol et les recouvrons de terre. Et le bocal se vide. C'était comme ça. Jusqu'à ce que ma grand-mère vienne habiter chez nous. À la place de son cabanon, ils ont construit un immeuble. Le jardin est toujours là, mais il ressemble à une jungle. Maintenant, c'est mon père qui me conduit à l'école le matin. Je ne marche plus beaucoup. Baba dort dans une chambre au bout du couloir, à côté de la mienne. Tous les matins, je lui apporte son gruau avec une pomme coupée en tranches. Mes parents n'ont pas le temps de s'occuper d'un jardin. Mais comme Baba a gardé des graines de tomates cerises, je les ai plantées dans un petit pot sur le rebord de sa fenêtre. Je n'avais jamais rien planté avant. J'espère qu'elles vont pousser. Baba me tapote gentiment les lignes de la main. Par la fenêtre, on regarde la pluie qui tombe sur le terril jaune d'or et sur les montagnes en forme de baleine. Et soudain, je me souviens. Alors je me précipite dehors, sous la pluie. Je marche lentement et je ramasse tous les vers de terre que je peux trouver. Ce texte, Jordan Scott, il l'a écrit pour Baba, sa grand-mère qui est née en Pologne, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a eu beaucoup de mal, qui a beaucoup souffert et qui a émigré au Canada où elle s'est installée avec son grand-père. Et Baba, lui, il l'a connue quand il était petit et c'était un moyen de lui rendre hommage avec ce livre. Je trouve que cet hommage est magnifique et que voilà, ça méritait bien une petite lecture. On vous laisse cogiter tout ça et puis on va avoir quelque chose de plus léger avec une petite chanson. Tiens, on va retrouver Mortel Adèle avec Les Mille Vies d'Ajax.
Tous les chats ont 9 vies et c'est phénoménal. C'est une anomalie de type congénital. Si vous leur demandez, ils ne vous diront rien. Un secret bien gardé par mes amis félins. J'ai une information que je ne dis à personne. C'est une aberration. Mais qu'Adèle affectionne. Allez, approchez-vous. À vous, je peux le dire. C'est plutôt un atout pour éviter le pire. D'après les experts, des vies, moi j'en ai 260 000 billions, 2 milliards 385 100 douzaines et 37 200 fois la lune aller-retour. Ma vie 1, je suis tombée dans le mixeur. Ma vie 2, glissée sous un tracteur. Ma vie 3, une croquette de travers. Ma vie 4, une scie circulaire. Ma vie 5, tournage de films d'horreur. Ma vie 6, problème d'aspirateur. Ma vie 7, un vrai prout nucléaire. Ma vie 8, chute de montgolfière. Toutes mes vies bout à bout racontent une petite vie relou. Mais c'est pas un problème. Mes miaou sont pleins de je t'aime. Toutes mes vies bout à bout racontent une petite vie relou. Si vous saviez comme on s'aime. Mes miaou c'est tout un poème. 124, une panne de moteur. Ma vie 407, un camion de facteur. Ma vie 750, allergie saisonnière. Ma vie 933, des vacances dans le désert. Ma vie 42 000, Adèle rentre avant l'heure. Ma vie 83 512, un peu trop de bonheur. Ma vie 270 420, des effets secondaires. Ma vie 945 613, c'était moi le dessert. Toutes mes vies bout à bout racontent une petite fille relou. Mais c'est pas un problème. Mes miaous sont pleins de je t'aime. Bout à bout, raconte une petite vie relou. Si vous saviez comme on s'aime, mais miaou c'est tout un poème. Y'a miaou du pourquoi, le miaou qu'est-ce tu fais là, le miaou du laisse-moi, le miaou du je sais pas, le miaou non pas toi, le miaou j'ai faim moi. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bout à bout, raconte une petite fille relou. Mais c'est pas un problème. Mes miaou sont pleins de je t'aime. Toutes mes vies bout à bout, raconte une petite fille relou. Si vous saviez comme on s'aime. Mes miaou c'est tout un poème. Toutes mes vies bout à bout. J'en étais à combien? 2 080 000. Mais moi cette vie-là, je la veux près de toi. On est fait l'un pour l'autre, ma maîtresse et moi. Je deviens cosmonaute sur sa catapulte en bois.
Et oui, Véro, c'est le cas. Ah, ça vous a échappé comme ça.
Je suis nulle en mortel Adèle, je suis désolée.
Ben oui, c'est Ajax. C'est Ajax, c'est le chat.
Ma culture mortel Adèle, voilà.
C'était donc les 1000 vies d'Ajax, donc c'est effectivement Ajax, le chat, comme vous l'avez deviné, et qui est interprété par Emmanuel Curtil, hein, qui nous chante donc la voix d'Ajax.
D'accord.
Ah non, c'était tellement donné avec plein d'émotions, et puis j'ai bien vu que Philippe, il n'avait pas encore rebaissé le niveau. C'était superbe. Allez, vous allez donc, pour vous faire pardonner, nous parler d'un petit livre qui va nous parler pas d'un chat cette fois-ci, mais je crois que c'est plutôt d'un chien.
C'est ça, Cocorico Archie. Un chien qui décide de remplacer le coq. Parce que ce qui se... Alors, Cocorico Archie, c'est écrit, j'imagine, par Mathieu Sylvander et illustré par Perceval Barrier chez l'École des loisirs, à une de mes collections préférées, Moucheron, qu'on va appeler première lecture, mais c'est bien plus que ça. Oui, si.
C'est bien plus
que ça. Aussi, mais c'est plus que ça. Bref, Monsieur Coq et Madame Poule ont le projet de partir en vacances avec leur marmaille. Ils ont le droit, hein, de poussins, toute leur marmaille de poussins. Ils sont contents, les poussins, ils ont leur sac à dos. Et ouais, on va en vacances, tout ça va. Ouais. Mais les autres animaux de la ferme ne sont pas d'accord, forcément. Comment le soleil va-t-il se lever si le coq n'est pas là pour le cocoricoter chaque matin? Donc, Monsieur Coq a beau assurer qu'il cocoricotera le matin même, même s'il est à la mer et que le soleil se lèvera toujours. Vous me suivez?
Oui, toujours. On est à fond, on est même au taquet. Là.
Les animaux, ils ne sont pas convaincus du tout, du tout. Ils se disent, la montagne va cacher le soleil, tout ça. Bon,
ouais.
Et bon, alors la petite fille qui fait partie de la ferme dit, ils sont relous quand même les animaux. Ils ne sont pas trop au courant de pas mal de choses. Quoi. Bon, enfin bref, ils n'ont pas le choix. Le coq dit, c'est mon droit, je pars en vacances. Il laisse partir la famille gallinacée avec beaucoup de regrets et de crainte que ce soit leur dernier jour de soleil. Heureusement, Archie, le chien, va s'y coller. Il s'est dit que, bon, il cocoricotera ou il fera du bruit, mais le soleil... Alors, ils sont tous angoissés, ils viennent tous dans sa niche toute la nuit. Et finalement, 6 heures arrivent. Et là, c'est terrible, parce qu'on ne sait même pas, même nous, lecteurs, on ne sait pas si ça va se lever.
Ah.
Et Archie se met à aboyer. Parce qu'il ne sait pas cocoricoter, c'est pas terrible. Il se met à aboyer et finalement, le soleil arrive et il s'est dit, oui, voilà. Et c'était ça, c'est bon, Archie peut remplacer le coq. Hop, la vie repart et tout va bien. C'est magnifique. Donc les illustrations de Perceval Barrier sont très cocasses et viennent répondre merveilleusement à un texte très drôle et grande qualité de chez Moucheron, très accessible. Voilà. Et moi, je me suis éclatée.
On voit bien ça. Hein. Moi, ça me donne très envie de cocoricoter aussi. Hein. J'adore ce mot. Merci Véro. On va passer au texte pour les beaucoup plus grands, hein, puisqu'on va s'adresser aux adolescents. Et puis là, on a choisi deux textes bien plombants.
Oui, il n'y a pas de raison. Hein.
Donc je vais commencer, c'est Méline qui va commencer, avec la réédition d'un texte qui est un texte vraiment coup de cœur. Je pense que tous les trois, on a vraiment un coup de cœur sur ce texte-là. Ça s'appelle « La porte de la salle de bain ».
Tout à fait. Du coup, avant les longueurs de Claire Question, il y avait Sandrine Beau qui écrivait « La porte de la salle de bain », donc toujours autour de ces thématiques de pédocriminalité, etc. Et là, dans ce court texte, on suit Mia. Mia, qui est une jeune fille qui commence à rentrer dans la puberté et qui est hyper contente de surveiller la pousse de ses seins. Donc voilà, parce qu'elle va être une femme, elle va être une grande, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, elle n'est pas toute seule à surveiller sa poitrine. C'est son beau-père Lloyd qui rôde autour d'elle. Plus que ça, même en fait, il entre dans la salle de bain pendant qu'elle se douche. Il enlève les chaises de sa chambre pour pas qu'elle bloque la porte et que lui puisse la regarder pendant qu'elle dort. Donc c'est plombant, hein. Ça fait froid dans le dos. Mais ça remplit très bien la fonction de la collection Ego, de faire des textes courts, choquants et nécessaires, vraiment utiles. Et je trouve que le point fort de ce petit roman, par contre, c'est vraiment le personnage de Mia, qui est hyper forte et qui vraiment réagit vite. Bon, après, c'est un roman court et il faut répondre à la littérature jeunesse, il faut que ça se termine bien. Mais je trouve qu'elle incarne vraiment cette jeune fille qui sait en fait qu'elle a du pouvoir. Parce qu'on a quand on est une jeune fille, je trouve qu'on a tout un peu cette idée préconçue de en fait, on n'a pas de pouvoir face à un homme, alors qu'en fait, on en a. En fait, on est aussi forte. Et
elle
je trouve qu'elle
défend.
Incarne
elle
hyper bien. Tout à fait. Elle protège son frère. Elle sait quand. Enfin, elle connaît les limites. Et là, elle sait qu'il faut parler.
Mais je pense qu'elle a eu des infos. Elle a une armure, quoi. On sent bien.
Ouais. Et je trouve que ça le fait passer le bon message, quoi.
Vraiment. En tout cas, c'est un super texte qui donc vient d'être réédité avec
tout
une nouvelle
fait.
Couverture. Donc on oublie la photographie, on a plutôt une couverture illustrée et qui, je trouve, aussi remplit très très bien sa fonction.
Ouais, je trouve que ça parle mieux que la couverture photo. C'est Anne Pommel, moi j'avais noté, qui a refait donc toutes les illustrations de la collection Ego. Et je trouve que toutes ces couvertures, elles portent vraiment le texte et c'est hyper parlant. Je trouve ça un super
travail.
Ça
me permet de reglisser, si vous voulez, lisez en couple de Colline Pierret, comme ça, avec la nouvelle couverture. Ça sera très, très bien. En tout cas, tout ce qui est publié chez Talreau dans la collection Ego, vous pouvez vraiment y aller. C'est vraiment une collection qui est absolument géniale. Et bien, moi aussi, j'ai un coup de cœur ado et moi aussi, c'est un texte bien plombant. Ce texte, ça s'appelle Au nom de Chris. C'est le dernier roman de Claudine Desmarteaux qu'elle a publié dans la collection Scripto chez Gallimard. Excellente collection également. Où on trouvait justement les longueurs de Claire Castillon. Voilà, tout se lit dans cette émission. Alors Claudine Desmarteaux, moi je suis fan depuis tout le temps en fait. Tout ce que j'ai lu d'elle, je suis hyper fan. J'avais adoré Jeanne, tout ce qu'elle a avec Camille.
Même les albums.
Troubles, même les albums, celui qui était sur l'alcool qui était trop bien aussi. Je sais plus, j'ai perdu le nom.
Même moi aussi.
et au nom de Chris, eh bien c'est encore un bon truc qui va vous rentrer bien dans la tête et qui va pas vous en sortir avant que vous ayez fini. C'est vraiment un thriller, on est prêt dedans. On va suivre Adrien, il vit avec sa mère qui vit toute seule, qui le surprotège, qui est toujours sur lui, qui est plutôt aimante, mais qui est un peu envahissante. Et Chris, en fait, donc il a cette mère, et puis au collège, il subit plutôt le harcèlement. Il est vraiment en grande difficulté avec ça, notamment avec un gars qui l'embête énormément, qui fait plus que l'embêter même. Et donc, pour se vider la tête, il part marcher dans la forêt. Et là, dans la forêt, il va rencontrer quelqu'un, il va rencontrer Chris. Et Chris, c'est un homme qui paraît assez charismatique, assez énigmatique aussi, et puis qui va tout de suite lui parler d'homme à homme d'une manière un peu différente, ni comme les profs le font, ni comme sa mère le fait, ni comme son agresseur le fait. Enfin voilà, il lui parle d'être humain à être humain, il va le pousser un petit peu sur ses retranchements. Nous, en tant que lecteurs, on voit bien que ce Chris, il craint, quoi.
Il est pas net.
Ah non, il est vraiment pas... Il est pas fin. C'est une espèce de survivaliste un peu taré et qui va prendre, en fait, le pouvoir de l'esprit d'Adrien. Ouais, c'est-à-dire qu'il va lui retourner le cerveau.
Il a une emprise sur lui.
Ouais, et le roman, en fait, il est glaçant parce qu'on le voit, ça monte. Adrien change, il devient Sven. C'est le nouveau nom que lui a donné Chris. Il lui fait perdre toute son identité, Et l'apogée du roman se passe pendant un week-end. Il a décidé de l'emmener pendant un week-end faire vraiment une sorte de stage de survivalisme qui va évidemment très mal se passer. C'est vraiment fort. C'est-à-dire qu'elle arrive à nous prendre et pendant 300 pages, on la lâche plus. C'est un super roman. Franchement, moi, j'ai adoré ce roman de Claudine Desmarteaux. On le lâche avec un petit peu de... c'est le genre de lit qui me pose et puis... Je fais une pause. Il faut que je sois tout seul. Éloignez-vous, les gens. Je ne veux pas vous parler. Je veux
je vais
juste
dans
réfléchir
la forêt,
à ce que
faire un stage
j'ai dit.
Non.
Voilà, en tout cas, c'est un très, très grand roman. Je me dis où va-t-elle s'arrêter ? Parce qu'à chaque fois que le Dîner Marteau, j'attends son nouveau roman avec beaucoup d'impatience. Et à chaque fois, voilà. Donc, c'est un très, très beau livre. Si vous aimez ces ambiances un peu glaçantes, d'ailleurs, on peut penser un petit peu à Adeline Dieudonné, je trouve, dans La vraie vie. Il y avait quelque chose un petit peu de cet esprit qu'on peut retrouver. Voilà. En tout cas, c'est un très, très beau roman pour ados dont on devrait entendre parler assez longtemps. Allez, l'émission finit bientôt. Je crois qu'on a atteint déjà l'heure d'émission. Méline, deux mots sur une série BD qui se termine et que vous avez beaucoup aimé.
Oui, tout à fait. Le tome 3 de Elle est sorti. C'est une petite trilogie, donc c'est terminé. C'est dessiné par Aveline Stockart et Kit Toussaint. Et dans Elle, en fait, on suit le personnage d'Elle, qui est nouvelle au lycée et qui va se faire une bande de copains très chouettes. Sauf qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que on comprend qu'elle a plusieurs personnalités qui surgissent à des moments pour le moins inattendus. Et du coup, on va la voir gérer toutes ses émotions et toutes ses personnalités qu'elle a en elle. Et c'est très bien fait, franchement. Là, la trilogie se termine hyper bien avec un beau message d'amitié et de et plein de joie. Et plein... C'est très, très beau. Et c'est trop fort. Franchement, le travail d'Aveline Stockart... Ouais. Et les dessins d'Aveline Stockart sont hyper beaux, hyper modernes, hyper lumineux. Et c'est très, très chouette, ouais. Voilà, moi, je dis, lisez cette BD, c'est...
Eh ben, merci Méline, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoint pour cette émission. On se retrouvera bientôt, j'espère, pour une autre émission.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Véro pour tous vos conseils, votre vrac et votre bonne humeur. Merci Philippe évidemment pour la technique. Encore un sans faute ce soir. Et on va terminer en musique avec, c'est pas comme vous Véro, et on va terminer en musique avec donc un nouveau morceau de Mortel Adèle. Ça s'appelle Karmastrophique. Donc c'est Mortel Adèle et Magnus, donc Dorothée Pousseau et Aldebert qui chantent. Et voilà, on se quitte comme ça et on vous dit plein de belles lectures. Et puis au mois prochain.
Au revoir.
Je fais couler un bain à maman.
Il y a des piranhas dedans.
Un bon repas gastronomique.
Omelette aux champignons toxiques.
Puis j'ai refait la décoration.
Un cratère au milieu du salon.
Une gentille papouille à mon chat.
Sur le ventre d'un anaconda.
Regarde, j'ai fait un beau dessin.
Une cible sur le front du voisin.
Un joli cadeau pour mamie.
Une belle collection d'insomnies.
Bouge pas, je vais te chercher un soda.
Merci, mais sans cura pour moi.
Ah, attends, je viens d'avoir une idée.
Je sens que ça va mal tourner.
C'est pas ma faute, je fais pas exprès. Moi, je donne pas dans l'à peu près.
La barre est haute, mais sans regret. Sans tes bêtises, on s'ennuierait. C'est karma, karmastrophique.
Je viens de faire une bonne action.
Cacher les endives au jambon.
Et grâce à moi, Ajax rayonne.
Vive les croquettes à l'uranium.
Mes parents ont l'air en pleine forme.
Tu connais le syndrome de Stockholm?
Arrête, tu dis n'importe quoi.
Ah ouais? Et la dynamite dans leurs bras.
J'ai offert à Jade du shampoing.
La teinture verte lui ira très bien.
Un poème à Geoffroy
qui s'intitule Bon débarras.
Et si j'invitais Jennifer
à venir ranger tes affaires?
Magnus, je crois que t'es jamais content.
Mais si, et sans toi ce serait moins marrant.
C'est pas ma faute, je fais pas exprès. Moi je donne pas dans l'à peu près.
La barre est haute, mais sans regret. Sans tes bêtises, on s'ennuierait. C'est karma, karmastrophique. Jeune funambule, fille de l'air. Tes parents ne sont pas nés d'hier.
Moi je pense à gauche, je pars à droite. Face aux punitions, je me carapate.
On sait que ton abécédaire est composé de sens contraires.
Faut dire que je suis pas diplomate. D'un coup à l'autre, comme une acrobate. C'est pas ma faute, je fais pas exprès. Moi je donne pas dans l'à peu près.
La barre est haute, mais sans regret. Sans tes bêtises, on s'ennuierait.
Ah tu vois, t'avoues. Je suis karma, karmastrophique.
Moi j'avoue. T'es karma, karmastrophique.